Radio Campus Paris.
Il est 20h et tout de suite c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses ambiances de Radio Campus Paris, le 93.9 FM.
Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme ?
Nous, les hommes, on ne peut plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on s'attaque à un nouveau sujet, la loi Asile et Immigration, la fameuse loi Immigration votée à l'Assemblée le 19 décembre, promulguée le 26 janvier 2024, après une censure partielle du Conseil constitutionnel qui a fait beaucoup de bruit. Quelles conséquences cette loi va avoir sur les personnes migrantes ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités.
Au programme également, une toute nouvelle chronique avec Chloé. Bonsoir Chloé.
Bonsoir.
Et une nouvelle exploration féministe des mythes antiques, cette fois-ci avec la figure de Médée. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Et aussi une toute nouvelle chronique d'Émilie qui continue son exploration de l'hystérie sous toutes les coutures.
Super, on a hâte de les écouter. Alors on se lève et on se casse, c'est parti.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Saluons d'abord nos deux invités. Camila Rios, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice et fondatrice d'UNIR. UNIR, c'est un programme d'accompagnement des personnes réfugiées et demandeuses d'asile qui leur permet donc une meilleure insertion académique et socio-professionnelle. Vous êtes aussi présidente du conseil d'administration de l'association SINGA, c'est ça ?
Oui, c'est ça, SINGA Paris.
Exactement, association française qui œuvre à l'intégration des personnes réfugiées et migrantes.
Et on accueille aussi Aubépine Daon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de l'association Paris d'Exil. C'est une association qui favorise l'accès aux droits des personnes qui cherchent refuge en France et qui a pour objectif leur autonomisation dans leurs démarches et dans leurs décisions.
C'est ça.
Alors tout d'abord, une réaction à l'actualité ces derniers jours. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, a annoncé la fin du droit du sol sur ce territoire d'outre-mer. Un changement donc que le gouvernement prévoit d'opérer via une réforme constitutionnelle. Comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce ? Et je vous pose la question à toutes les deux. Camille Rios, pour commencer, par exemple.
Donc, je pense que c'est terrible. Déjà, ça ouvre la voie à la fin du sol sur tous les territoires. C'est une violation des principes d'égalité, d'unité. Je pense que les droits du sol, c'est un héritage commun. Et ça a pu créer aussi, aggraver les tensions qui existent déjà. Il y a aussi cette question de différencier les enfants par la nationalité de leurs parents. Et donc, la première réaction, ça fait peur.
Aubépine Daon.
Il faut rappeler que le droit du sol aujourd'hui en France, c'est pas si simple. On a l'impression qu'on supprime quelque chose qui va de soi, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire il suffit pas d'être né, il faut aussi avoir pu rester en France jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas évident quand on a des parents sans papier qui sont menacés d'expulsion. Et là, on peut effectivement demander, si on a été scolarisé suffisamment longtemps, la nationalité française. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très simple et de très évident aujourd'hui. Maintenant, cette intention de supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a des reculs très très importants qui sont permis par une atmosphère, un contexte très inquiétant, où tout devient possible, où des forces furieuses se libèrent. Ça se passe aussi à Mayotte, c'est pas anodin, parce que Mayotte c'est vraiment un territoire d'expérimentation, de violation des droits systématiques. C'est là-bas qu'il y a la majeure partie des expulsions, c'est là-bas qu'il y a des abus de droits, c'est là-bas qu'on enferme des mineurs massivement dans les centres de rétention. Donc c'est là-bas qu'on se permet des choses qu'on ne se permet pas sur le territoire métropolitain. Et donc, quelque part, c'est que la continuation et l'aggravation de dynamiques qui sont déjà là depuis longtemps.
Oui, et ça ouvre une brèche même, on va dire, dans l'espace idéologique, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, n'a pas tardé, après cette annonce de Gérald Darmanin, à réclamer la fin du droit du sol sur tout le territoire français.
Oui, et je crois qu'il ne faut jamais oublier que, historiquement, ce sont toujours des forces politiques sociales-démocrates bon teint qui amènent au pouvoir des extrémistes.
Justement, le droit du sol, il avait déjà été remis en cause par la loi immigration telle qu'elle avait été votée en décembre. Comme quoi, ça n'est effectivement jamais acquis, l'obtention automatique de la nationalité pour les enfants de parents étrangers nés en France. Donc ça, c'est une mesure qui a été depuis censurée par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi une tentative de réinsertion du délit de séjour irrégulier, qui a aussi été déclaré inconstitutionnel finalement. Qu'est-ce que ça dit de la philosophie de cette loi pour vous, Aubépine ?
Ça reflète très bien l'angle criminalisant de toute cette loi et disons l'état d'esprit qui est derrière. Déjà le fait de légiférer 22 fois en 30 ans, c'est-à-dire en moyenne une fois tous les ans et demi sur un sujet, ça prouve une sorte d'obsession. Soit ça prouve que les lois sont mauvaises, mais à ce moment-là, pourquoi continuer à en faire ? Soit une sorte d'obsession sur un sujet, ou bien un hochet qu'on agite tout le temps pour se dire bon, on va détourner l'attention des vrais sujets. Ça reflète aussi là une perception de la personne exilée qui est toujours sous l'angle d'un danger, d'une menace et complètement en décalage et en opposition avec la réalité du terrain. Ce sont des personnes tout à fait, ni bien ni mal intentionnées, qui cherchent un endroit pour construire leur vie et qui sont bien loin de ces amalgames qu'on peut faire avec la figure du délinquant, du terroriste et qui ne sont pas en soi ni des dangers ni des menaces pour les personnes qui vivent en France.
Oui, et ça s'appuie aussi. Sur un concept qui est régulièrement évoqué dans les médias, par les politiques, les éditorialistes, c'est celui de l'appel d'air. Donc l'idée selon laquelle si la France accueille trop bien les étrangers, ils seront de plus en plus nombreux à venir. Or, comme le dit la fameuse formule, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Cet appel d'air, pour vous, il existe, Camille Arrios ?
Non, et déjà, ça a été démontré. Il y a un travail très intéressant de François Héran, qui montre à quel point c'est faux. Le fait que c'est les pays qui attirent, c'est les champions de l'accueil en Europe, etc. Et il donne beaucoup, beaucoup d'exemples, mais un des exemples, c'est l'Ukraine récemment, et à quel point si c'est le cas, donc alors pourquoi c'était pas la France, le premier pays qui accueillit le plus les Ukrainiens, etc. Donc c'est très intéressant. Mais après, dans les études de migration internationale, il y a aussi cette idée qu'on appelle en anglais pull and push factor, donc le fait qu'il y a des éléments qui vont faire des gens aller ou partir d'un pays, et qu'en vrai, quand on est dans les terrains et on rencontre des personnes, nous on travaille avec des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile, et certaines personnes que j'ai rencontrées même avant de faire leur demande d'asile, et surtout des femmes, et qu'on évoque les faits, mais en fait, votre parcours et ce que vous avez vécu, c'est suffisamment pour faire une demande d'asile. J'ai eu des femmes qui m'ont répondu, mais je ne suis pas folle, je n'ai pas besoin d'aller à l'asile. Et donc, il y a même une méconnaissance du système, de qu'est-ce que c'est la protection d'asile. Donc, dire que les personnes ont le choix intelligent de voir quel est le pays qui a plus d'aides et toucher les aides, quand en fait, il y a aussi des études qui montrent qu'il y a un pourcentage assez grand des personnes qui pourraient toucher des aides, qui ne les touchent pas, ou qui choisissent un pays pour les... Bref, c'est assez, je ne sais pas, des idées intellectuelles.
Un fantasme.
Ouais, un fantasme qui fait beaucoup du mal.
Aubépine.
Je pense que sur cette histoire de l'appel d'air, en effet, toutes les études scientifiques montrent que c'est totalement infondé. Mais bon, ça, le temps que la recherche arrive jusqu'au cercle du pouvoir, il y a du temps qui se passe. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui est en exil, c'est quelqu'un qui s'est enfui. C'est pas quelqu'un qui s'est dit « je vais aller quelque part ». C'est quelqu'un qui a dû partir à un moment donné, qui a eu la chance, l'opportunité de prendre cette décision, de pouvoir le faire, parce que beaucoup ne peuvent pas le faire. Alors après, c'est une chance terrible, parce que ça vous expose à la route migratoire, à des violences terribles, à voir mourir les gens autour de vous, etc. Et puis après, à tenter de survivre en arrivant dans le pays, entre guillemets, d'accueil. Et là, il faut vraiment mettre des guillemets. Donc l'exil, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas de l'expatriation, ce n'est pas un projet de vie, c'est un truc qui vous est tombé dessus du jour au lendemain parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « là, je dois sauver ma peau et je peux le faire ». Voilà, et donc les gens partent, et moi dans tous les récits, c'est comme Camilla, dans tous les récits d'asile, de demande d'asile ou les récits tout simplement, les échanges que j'ai avec les personnes, c'est d'abord je suis allée là, et puis après là je me suis aperçue que ça marchait pas, je pouvais pas travailler, après je suis allée là, c'est toujours des sauts de puce au gré des possibilités, et dès que les gens trouvent un endroit où ils peuvent vivre tranquille, ils s'arrêtent, mais le problème c'est qu'ils en trouvent pas. Et l'autre chose sur l'histoire de l'appel d'air, des aides et tout ça, oui, c'est vrai que les personnes exilées réfléchissent à l'endroit où elles voudraient aller, mais quand c'est le cas, c'est plutôt en termes de où est-ce que je vais pouvoir bosser. Mmh. C'est pas où est-ce que je vais pouvoir toucher des allocs.
Mmh. Un pays et dont je parle la langue.
Voilà, il y a plusieurs facteurs, et notamment la possibilité de travailler, ce qui explique que l'Angleterre attire beaucoup plus les personnes exilées que la France. Je veux dire, les anglophones qui sont en France, qui sont coincés en France, les Afghans, les Soudanais, ils veulent rejoindre l'Angleterre, mais c'est la France qui les en empêche. Donc en fait, cette histoire d'appel d'air, elle est complètement infondée. Et malheureusement, elle inspire des politiques qui, en revanche, vont créer beaucoup de problèmes pour la société française.
Mmh. Justement, écoutons Gérald Darmanin.
Alors, c'est une loi qui donne énormément de moyens au ministère de l'Intérieur, puisque jamais la loi de la République n'a été aussi ferme, aussi dure avec les étrangers délinquants. Donc d'abord, c'est une loi très ferme. Donc oui, c'est celle que je voulais. Deuxièmement, les dispositions par ailleurs de lutte contre l'immigration irrégulière sont très fortes, contre les logements insalubres, contre les entreprises qui embauchent des personnes irrégulières, contre le système d'auto-entrepreneurs qui crée des systèmes de régularisation sauvage, par exemple on voit bien avec les VTC ou on voit bien avec les livreurs à domicile. Cette loi va permettre de tarir cette source. Et puis troisièmement, beaucoup de mesures d'intégration et d'exigence. Le fait de passer un examen de français et de devoir le réussir pour avoir un titre de séjour, c'est une révolution pour la France. Et donc, évidemment, c'est aussi une mesure que j'attendais énormément.
On vient d'entendre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après la promulgation de la loi le 27 janvier dernier. Une réaction ?
Non. Non, oui, beaucoup de réactions. Bon, déjà, les ministres, il a dit des semaines et semaines sur son compte X, Twitter, à donner des cas de figure des personnes qui étaient expulsées parce qu'ils étaient des délinquants. Donc, on sait bien quel est le discours derrière. Vraiment des semaines, hein, c'est ça. Il faisait tous les soirs ça. Donc, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Et après, cette idée de l'examen de niveau des Français, oui, bien sûr, moi, comme personne qui a dû apprendre les Français pour vivre en France et travailler, je reconnais l'importance d'apprendre la langue du pays où on habite pour créer des liens, pour trouver un travail. C'est hors question de questionner ça. Mais de ça, que la langue devient un outil, un prérequis et une condition pour pouvoir avoir un titre de séjour ou régulariser la situation administrative, c'est très problématique. En tant que directrice d'une association qui a des cours de français et qui organise des cours de français, on a 250 places, plus de 500 demandes par session. Et on sait qu'il n'y a pas suffisamment de cours ou d'offres derrière, donc on veut dire dans l'écosystème. Et bon, ça met aussi la question par rapport aux personnes qui sont encore plus éloignées, par exemple les femmes, l'accès à ces cours de français. Il y a plein de questions et c'est trop triste de voir que la langue, elle est utilisée comme un instrument, même pour la régularisation et pas comme un instrument de rencontre, d'inclusion, de création des liens, etc.
Allez-y, Obéfine.
Oui, moi, quand j'entends le mot « ferme », je me marre parce que ça me fait penser au blanc en neige. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi une loi sur les parcours migratoires devrait être ferme. Et je pense que là encore, le cadrage est fait autour de... comme si la migration était un caprice. et qu'il fallait être sévère avec la migration. Et là encore, on est dans un dévoiement total de la réalité du terrain.
Pour vous, c'est une loi qui est une réaction à une panique morale, en fait, une nouvelle panique
morale. Ah non, pas du tout. C'est une loi qui a été une réaction à la demande des patrons du MEDEF de faciliter la régularisation de leurs travailleurs sans papier et qui a très mal tourné à cause de négociations contre « je t'échange la réforme des retraites », contre le droit de la droitisation de la loi, puis après tout le cirque qu'on a connu. Et qui a abouti à ce cirque assez tragique pour nous.
Oui, et qui s'est terminé, pardon.
Non, pour moi, c'est aussi, ça rentre dans les jeux électoraux, cette loi.
Oui, c'est pour gagner un peu de la droite extrême, encore une fois.
Oui, c'est tout un enchaînement d'événements qui s'est terminé par la censure d'une bonne partie de la loi par le Conseil constitutionnel en janvier dernier, donc des dispositions sur la conditionnalité des aides sociales, sur le droit du sol justement, ont fini par être censurés. Est-ce que cette censure, ça vous a un peu rassuré? Est-ce que vous pensez que la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui en France, elle peut protéger les droits des personnes exilées? Aubépine.
Ça m'a pas vraiment rassurée. Ça m'a évidemment, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était mieux que si ça n'avait pas été censuré. Mais comme a dit un professeur de droit, un étudiant en première année de droit aurait pu prédire ce qui s'est passé. Par ailleurs, c'est pas la constitutionnalité elle-même des lois, des dispositions qui a été remise en question. C'est simplement le fait qu'elle n'avait pas de rapport avec le sujet de la loi. Donc en fait, ça nous protège pas vraiment de d'attaques futures encore. Je pense qu'il y a un point de non-retour, il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé. Encore une fois, on est dans une dynamique qui dure depuis 30 ans, 40 ans.
Tout à fait.
Donc là, ce n'est qu'une étape. En fait, pour nous qui sommes sur le terrain depuis 8 ans, on peut voir les signaux de cette dérive qui va vers le pire. On n'est pas... Mais c'est très, très inquiétant, effectivement, dans le sens où ça a rendu des choses possibles. Ça a remis, ça a fait du Conseil constitutionnel une cible pour l'extrême droite qui s'est mis à dire, puisque les juges, tenir un discours un peu à la Trump en disant, puisque les juges s'opposent au peuple, entre guillemets.
Oui, le coup d'état de droit.
Il faut supprimer le Conseil constitutionnel. Donc ça a quand même fait de gros dégâts.
Oui, surtout arriver jusqu'à ce point et entendre aussi les présidents de la République dire « Oui, il y a plein d'articles qui sont anticonstitutionnels, il y aura les conseils constitutionnels qui décidera. » Je pense que c'est...
Oui, il y avait une forme de lâcheté de la part de...
Oui, d'arriver à un point à dire « Oui, il y a plein des articles... »
Une forme de légèreté inouïe, quoi, sur un texte comme celui-là.
Là, on va faire une petite pause dans cette interview pour écouter Saoud et Sargazan.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Mmh.
pourrait s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci, c'est dire. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
C'était ma chanson préférée en ce moment. La splendide Zao de Sagazan avec son titre phare qui a remporté une victoire de la musique cette année, la symphonie des éclairs.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Vous écoutez aussi On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de la radio. Et nous sommes toujours avec Aubépine Dahan et Camila Rios, fondatrices des associations Paris Exil et Unir Réfugiés. Camila Rios, vous avez très justement fait remarquer, lorsqu'on vous a invité, que les femmes n'étaient jamais désignées en tant que telles dans le texte de la loi immigration. Pourtant, donc, selon la dernière étude de l'INAV qui date de 2020, et ça n'est pas nouveau, les femmes constituent une part majoritaire des populations immigrées en France aujourd'hui. 52% en fait des personnes immigrées sont des femmes. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie de ne pas les nommer du tout, précisément ?
Je pense que ce n'est pas nouveau, ça répond à une visibilisation systémique des femmes immigrées, qui sont ce qu'on dit les doubles peines, même si je n'aime pas ça, l'effet d'être femme et immigrée. Mais en même temps, ça continue dans la même longueur d'onde où on était. Mais beaucoup de, même si on ne les nomme pas, beaucoup des articles qui sont dans les lois affectent de manière plus spécifique les femmes. Donc, ils ne sont pas à destination des femmes, mais les résultats de ce type de mesures peuvent avoir un effet plus fort dans les femmes. Donc, je pense que comme quelqu'un qui travaille dans les terrains et qui voit des femmes qui déjà ont des difficultés d'avoir certains des logements, qui sont isolées ou qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants, sans garde d'enfants. Il y a beaucoup de situations difficiles qu'on les voit déjà tous les jours. Donc, c'est simplement aggraver cette condition-là et cette vulnérabilité qui est d'une façon ou l'autre, je pense qu'on ne reconnaît pas au moment de rédiger la loi.
Oui, le parcours migratoire des femmes est assez différent de celui des hommes. Pour beaucoup d'entre elles quittent aussi leur pays pour fuir des violences qui sont spécifiques. Est-ce que leur parcours migratoire, il est plus dangereux pour cette raison-là ?
Oui, donc 75% des femmes avant d'arriver en Europe sont victimes de violences sexuelles. Donc il y a plein d'études qui les démontrent. Et c'est, en plus, il y a aussi, on parle de féminisation de la migration, mais en vrai, depuis les années 60, en termes de chiffres, c'est assez stable. Ce qui a changé un peu, c'est le fait que les femmes commencent à partir plus seules, veuves, divorcées, et aux femmes qui simplement ont des projets, qui décident de partir parce qu'ils sont aussi plus diplômés dans le monde, il faut aussi dire ça.
Il faut le dire, oui.
Ouais. Donc, il y a sept groupes, on peut dire, de femmes indépendantes qui peut-être répondent aussi à un changement de paradigme par rapport au travail des femmes, qui fait qu'il y a plus de femmes seules qui partent et des femmes seules qui sont face à des difficultés, des obstacles qui ne s'arrêtent pas, et ça je le répète tout le temps, ça s'arrête pas au moment d'arriver en Europe et ça s'arrête pas au moment d'arriver en France. Et les femmes que nous on accompagne sont de l'association et ils nous racontent, donc j'ai plein d'histoires, des choses qu'eux ils ont vécues une fois sur le territoire français. Et donc c'est vraiment, c'est dur parce qu'il n'y a pas uniquement les parcours migratoire qui est violent, et, mais il y a aussi la violence d'une fois arrivé dans un territoire qui bon, que c'est un peu les points finaux, non, dans leur parcours, et ils sont face encore une fois à des violences et sexistes, sexuelles et des agressions aussi, bon, physiques, tout type de violence.
Oui, il y a une étude qui a été publiée en septembre dernier dans une revue très sérieuse qui s'appelle The Lancet, qui montre que en France, les femmes demandeuses d'asile ont 18 fois plus de chances d'être victimes de viol que les Françaises. Donc, parce que on a l'idée, on imagine bien que sur un parcours, etc. Mais en fait, comme vous dites, ça ne s'arrête absolument pas. Et c'est pas seulement faire face à des discriminations, des préjugés, etc. C'est aussi faire face à des violences physiques quand on arrive.
Oui, c'est le cas, ouais.
Vous, Aubépinaon, je sais que vous accompagnez beaucoup de femmes dans votre association Paris d'Exil. C'est quelque chose que vous constatez ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que le parcours migratoire, il est violent pour tout le monde. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles, violences physiques, d'esclavage, etc. Après, évidemment, il y a une dimension spécifique au fait d'être une femme, ça c'est sûr. Une femme avec des enfants, voilà, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement vont tomber enceintes sur le parcours, ça peut pas arriver à un homme, c'est sûr. Mais bon, voilà, la route migratoire, je pense qu'elle est, elle est terrifiante pour tout le monde. Après, cette loi, elle a pas de dispositions qui s'attaquent nommément aux femmes. Mais il faut bien comprendre que, effectivement, nous, dans l'association, on accompagne essentiellement des femmes seules ou en couple, avec ou sans enfants. Donc pour nous, en fait, on a quasiment que des femmes. On a un papa qui arrive de temps en temps seul avec son enfant, mais en fait, surtout des mamans ou des femmes seules. Et en fait, quelle est la violence spécifique qui est exercée à leur encontre ? C'est que d'abord, elles sont souvent avec une charge exclusive ou principale des enfants. Donc c'est elles qui vont encaisser toute la précarité qui est liée justement à ce type de loi qui entrave l'accès aux droits, puisque les droits existent. Ces personnes ne devraient jamais être à la rue, mais elles le sont, et elles le sont de plus en plus, et y compris avec des enfants, y compris avec des enfants nouveau-nés. Donc évidemment, toute cette violence retombe sur les femmes, toute ce stress intense. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on voit moins, c'est-à-dire que les femmes font l'objet d'un traitement privilégié par les dispositifs en France, qui finalement va se retourner contre elles, puisque à force de ne pas faire des traitements égalitaires pour tout le monde, parce qu'à la fin, un homme ou une femme à la rue, tout le monde est vulnérable, comme quand vous êtes une femme enceinte, avec un enfant, deux enfants, trois enfants, vous avez plus facilement accès à des dispositifs d'hébergement, etc., bah vous devenez quelque part une proie. Enfin, vous devenez un produit de...
Une ressource.
Une ressource pour certains sur le parcours migratoire ou en France. Donc, en fin de compte, tout ce qui va altérer l'égalité entre les personnes d'accès aux dispositifs et tous les accès aux droits... À la fin, ça va se retourner ça va se retourner plus durement contre les femmes parce qu'elles ont souvent charge d'enfants et qu'elles sont des leviers très importants, donc dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, donc c'est un peu la condition qui leur est particulière.
J'ai l'impression que c'est important d'expliquer comment les femmes deviennent des ressources plus précisément, parce que je pense que c'est pas une idée qui est très répandue et qui est très expliquée en fait.
On voit que si vous êtes une femme isolée, vous êtes considérée comme plus vulnérable qu'un homme isolé.
Bien sûr.
Isolé.
Et quand elles ont des enfants, par exemple, qu'est-ce que ça donne ? En quoi elles deviennent des ressources à ce moment-là ?
Parce que le fait de, pour un homme d'être considéré comme un homme en famille et non pas comme un homme seul, pour lui, ça va augmenter ses chances d'accéder à des hébergements. Et c'est le contraire pour une femme.
Ouais.
Le fait d'une femme seule augmente ses chances et d'être une femme en couple la rend moins prioritaire.
Ce qui est complètement contradictoire.
Donc, il ne s'agit pas de dire, dire que les hommes vont abuser des femmes et tout, mais de mettre en lumière ce système complètement absurde qui consiste à dire dans telles conditions on a le droit et dans telle autre condition, enfin plutôt on est prioritaire et dans d'autres on n'est pas prioritaire. Le problème, c'est la pénurie de dispositifs qui pousse à faire des priorités et qui pousse à ce type de déséquilibre.
Oui, en parlant de dispositif, on a les personnes, bien sûr, primo-arrivantes qui sont très vulnérables. C'est celles qui vivent souvent dans les conditions les plus précaires. Mais évidemment, le parcours ne s'arrête pas là. Ça peut durer des années. Et au cours de toutes ces années à s'installer, à construire sa vie, bah, y a toujours des nouveaux obstacles. Est-ce que cette loi, et vous le disiez plus globalement, les lois successives, l'état d'esprit qui s'installe, rend ces obstacles plus durs à franchir? Je parle notamment en fait, de l'administration, de ce qu'il faut justifier toujours.
Oui, bon, je pense qu'il y a un point sur la loi qui est assez délicat, qui c'est le lien qui se fera pour la première fois entre l'OFPRA et l'OFI. Dans le sens que, par exemple, si une personne demande
d'asile... Alors, juste pour rappeler ce qu'est chaque organisme, pardon.
L'OFPRA, c'est l'organisme français d'intégration et des personnes immigrées. C'est celui qui s'occupe de délivrer tous les titres de séjour, etc. Mm-hmm. Et l'OFPRA, c'est celui qui est plutôt lié uniquement, on veut dire, aux demandeurs d'asile, mm-hmm. pour le dire très simple. Et donc, le fait que, normalement, c'est distingué, on fait une demande d'asile, et après, si on a les statuts de réfugiés, par exemple, ou en protection subsidiaire, un type de protection internationale, donc on rentre, ensuite, c'est l'OFI. Et là, il y a une espèce de... Il va y avoir des liens, il va y avoir même des bureaux au sein des préfectures pour faire des demandes d'asile au sein de la préfecture, que ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et il y a aussi un aspect lié au centre d'hébergement et les cas de refuser un centre d'hébergement aujourd'hui. Et ça peut avoir des conséquences pour, par exemple, avoir une coupure de l'aide aux demandeurs d'asile, l'ADA.
Ce que vous dites, c'est que on refuse, aujourd'hui, si on refuse d'être hébergé ailleurs, par exemple, que là où on s'est installé,
le centre d'hébergement,
la procédure d'asile peut s'arrêter là.
Oui, là c'est nouveau. Et là, c'est assez inquiétant parce que nous, on a des cas de personnes, par exemple, qui demandent soit un changement de centre d'hébergement pour des questions liées à l'éducation, nous qui accompagnons des personnes qui sont admises à des programmes. Aussi, on a eu des cas de femmes avec des enfants malades, avec des lettres même de l'hôpital en disant des nouveau-nés qu'elles ne pouvaient pas continuer à être genre, dans ce lieu d'hébergement. Et ça a été vu comme si elles refusaient l'hébergement, quand il y avait même des lettres de médecins en disant qu'il faut qu'elles soient transférées. Mmh. Et donc, pour les demandeurs d'asile en particulier, je pense que ça les met encore plus en danger parce que comment on peut faire un raccourci du fait de refuser un centre d'hébergement et avoir sa demande d'asile interrompue. Donc, il y a beaucoup de questions très techniques.
L'asile paraît quand même une question beaucoup plus importante que juste...
Ou il y a aussi cette idée de droit de séjour et pas nécessairement de titre de séjour. Donc, cette idée qu'on peut faire une demande d'un titre de séjour et ça va être discrétionnel de la préfecture de dire « c'est pas ce titre de séjour, par exemple, qu'on va vous proposer, c'est celui autre ». Et cet autre titre de séjour, parce qu'on considère que, si on a un refus, le fait d'avoir été refusé un titre de séjour bloque la possibilité de faire une autre demande d'un autre titre de séjour. Mm-hmm. Donc, en vrai, c'est le droit au séjour qui est jugé et pas nécessairement les titres de séjour. Mm-hmm. Et ça aussi, je pense que c'est assez... moi, je me suis refusé un titre de séjour, donc je me dis, dans la réalité, dans le futur, si c'était mon cas, la Camilla d'il y a 5 ans, et donc j'aurais pas eu le droit de faire une autre demande parce que j'étais refusée, sauf s'il y a des preuves supplémentaires. Et là, on parlait même pas d'asile. Là, je parle de titre de séjour. Donc, parce que la loi, elle est assez complexe aussi, parce qu'on fait un mélange entre les titres de séjour de tout type, genre salarié, étudiant, etc., et la partie asile. Donc, on parle des immigrés, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, comme si c'est tout confondu, quand en fait, c'est pas le cas, et ça porte en termes légaux, c'est pas la même chose.
Et parmi les dispositions visées par la loi en décembre, depuis censurées aussi par le Conseil constitutionnel, il y avait aussi la question du durcissement des conditions du regroupement familial. Donc le Sénat avait demandé un allongement de la durée de séjour en France pour demander un regroupement familial, un rehaussement de l'âge requis pour les demandeurs et les conjoints de 18 à 21 ans. Ça aussi, ça avait été déclaré inconstitutionnel.
C'est quoi l'idée derrière de rehausser tout ça? On vous fait répéter, on vous fait reformuler tout ça, mais pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce que c'est l'idée derrière le fait de rehausser l'âge de 18 à 21 ans? Ça peut sembler presque rien, en fait, pour des personnes qui ne s'y connaissent pas. Mais en fait,
c'est
très important.
Il faut déjà voir que ça vient sur une situation dans laquelle déjà ces dispositions n'existent
pas
presque
à
plus.
La base, ouais.
C'est-à-dire que le regroupement familial aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un titre de séjour autre que réfugié et qui va demander à ce que sa famille le rejoigne en France. Mais en fait, quand vous demandez un regroupement familial, la préfecture peut apprécier si vous remplissez les conditions matérielles. Est-ce que vous avez bien un 5 pièces si vous avez 4 enfants? Est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent? Est-ce que ceci, cela, autre chose? Et donc, vous pouvez très bien avoir un travail, un appartement, etc. et attendre 5 ans, 6 ans. Et puis, au bout d'un moment, vos enfants sont majeurs, ils ne peuvent plus vous rejoindre. Donc en fait, ce droit au regroupement familial, il est déjà largement altéré par la pratique. Donc l'idée, vous demandez quelle est l'idée derrière tout ça, elle est très simple, c'est de monter la barrière pour que... Pas pour empêcher que les gens viennent, puisque les gens vont pas lire la loi de Darmanin avant de venir.
Évidemment.
Je suis navrée de le vexer, mais enfin... mais en revanche, quand elles vont se retrouver ici, elles vont se retrouver empêtrées dans des labyrinthes administratifs juridiques dont elles ne peuvent pas se sortir. C'est déjà très compliqué quand on comprend le système de droit. Quand on ne le comprend pas, c'est quasiment impossible de s'y retrouver. Et si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une personne en situation irrégulière, c'est pas sa situation à elle qui est en question, c'est l'état des lois dans le pays. Et qu'avec 22 lois en 30 ans, il est bien évident que vous avez de plus en plus de chances d'être en situation irrégulière. Les Français le connaissent avec l'inflation des normes. C'est-à-dire que plus il y a de normes et plus on a de chances d'en enfreindre une. C'est mathématique. Donc en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de mettre les personnes dans des situations administratives inextricables et de leur prendre toute leur énergie pour qu'elles ne puissent pas se consacrer à leur installation dans le pays.
Oui, oui, ce que je comprends, en fait, c'est tout ça est un labyrinthe. Ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des dispositifs de cette loi, mais qui venaient mettre en danger des droits qui déjà étaient quasi inexistants. Et que là, on est en train d'installer encore plus de barrières, de murs dans le labyrinthe. Enfin, voilà, il n'y a plus de way out, quoi. On ne peut plus sortir. Et pour des lois qui prétendent aider à l'intégration, en fait, c'est le contraire.
Pas du tout. Oui. C'est, si vous vouliez faire un système dans lequel il est impossible de s'intégrer, vous feriez le système qu'on a aujourd'hui. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de la disposition concernant l'hébergement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en théorie, quand vous arrivez en France et que vous demandez l'asile, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, en échange de cette interdiction de travailler, la loi prévoit les conditions matérielles d'accueil, qui, là encore, sont respectées dans 50% des cas. Donc, ça veut dire, on vous dit, puisque vous ne pouvez pas travailler, on va vous assurer un hébergement, une allocation, la couverture santé pendant le temps de l'instruction de votre demande d'asile. Sauf que c'est fait dans la moitié des cas. Et donc, le fait de proposer un hébergement à un demandeur d'asile, souvent, ça intervient 6 mois, 9 mois après son arrivée sur le territoire. Donc, les personnes se sont installées, bon an, mal an, les enfants ont commencé à aller à l'école, ils ont tissé des réseaux. Et là, on leur dit, on a un truc pour vous à Auch. Et là, si vous partez pas, effectivement, dans la nouvelle loi, c'est carrément la clôture de votre demande d'asile, quoi. C'est incroyable. Et donc, c'est une fragilisation du droit d'asile. De même que ces centres en province où on passe au guichet unique, on s'enregistre comme demandeur d'asile et le jour même, on dépose sa demande d'asile. Ça veut dire qu'il faut avoir rédigé en français un récit dans lequel vous racontez le mariage forcé, l'excision, les violences conjugales, les passages en prison, les mutilations, que sais-je. Enfin, c'est pas réaliste, si vous voulez. Donc c'est une fragilisation, c'est comme de dire vider le droit d'asile de sa réalité pratique.
Camille Arellos, je voyais...
Oui, non, c'est raccourcissement aussi des délais, par exemple, des demandes d'asile. Et quand j'ai parlé qu'il y avait beaucoup de mesures qui affectaient encore plus les femmes, moi, je pense vraiment aux femmes parce qu'on a eu des cas qui, ça nous a pris des semaines, pour pouvoir les aider à même accepter ce qu'ils ont vécu et pour pouvoir raconter leur récit. Donc, si on a parfois 48 heures pour faire les dépôts ou des temps qui sont vraiment des délais de recours de 7 jours pour les transferts, arrêter les transferts Dublin, par exemple, j'imagine pas comment des personnes qui ont déjà, ils sont loin accès aux droits, et assistants juridiques, etc., comment ça va, bon, oui, je m'imagine très bien, comment ça va les pénaliser. Donc, et par rapport aussi au contrôle et tout, et l'obsession totale en ce moment, c'est les contrôles des frontières et tout ça. En vrai, ce qui montre les études, c'est que plus on rend difficile les personnes pour arriver en lieu, c'est pas qu'ils vont arrêter de faire les parcours, ils vont prendre des voies qui sont encore plus dangereuses pour eux et ça les mettre encore plus en danger. Donc, ma seule conclusion, au-delà de rendre la vie aux personnes immigrées impossible, c'est aussi... qui est derrière, il y a une idée politique, comme dire, de rassembler de certains discours et des soutiens de certains partis politiques au-delà et que les prix, c'est les personnes immigrées. Quoi. Genre, et c'est un peu comme une espèce de fiche d'échange, je ne sais pas, d'un jeu vis-à-vis des élections. Monnaie d'échange.
On va continuer dans un instant à parler de tout ça, mais d'abord, on accueille Chloé. Rebonjour. Tu continues ton exploration des féministes des mythes antiques. Et aujourd'hui, à qui t'attaques-tu ?
Eh ben aujourd'hui, je voulais faire un petit détour avec le mythe de Médée. Donc, c'est un mythe très populaire qui a connu beaucoup de reprises à travers les âges, la plupart très sombres. Donc, la version classique que vous connaissez peut-être, la plus connue, développée par Euripide et Sénèque et reprise par Corneille et encore plus proche de nous par Jean Anouilh, se concentre sur une petite partie du mythe qui est la partie finale. Donc pour vous la faire courte, Médée habite à Corinthe avec Jason. Elle est mariée à Jason, mais comme Jason décide de l'abandonner pour épouser la fille du roi de Corinthe, Médée tue les deux enfants qu'elle a eus avec lui, ainsi que aussi le roi de Corinthe et sa fille, pour se venger de son mari.
Mais quel est le lien avec les femmes et l'immigration ?
Alors en fait, ce mythe a connu beaucoup de variations, mais toutes les versions ont un point commun, et toutes en fait, elles soulignent que Médée, c'est avant tout une étrangère. Médée, elle vient de Colchide, donc, qui est dans l'actuelle Géorgie. C'est une sorcière, c'est la fille du roi de Colchide. Elle a aidé le héros Jason à passer les épreuves de son père pour obtenir la toison d'or, avant de s'enfuir avec lui et de tuer son frère pour retarder son père. Donc Médée, c'est pas seulement une étrangère, c'est une apatride. Elle ne peut pas retourner « chez elle » entre guillemets parce qu'elle a trahi son père et tué son frère. Et elle est vraiment tout à fait consciente que cela la place dans une situation tout à fait précaire. Donc Sénèque, par exemple, lui fait dire qu'être apatride, c'est le pire des mots qu'elle puisse souhaiter à Jason, l'époux qui l'a abandonné. Donc, y a-t-il quelque chose de pire, nous dit-elle, quel autre mal pourrais-je souhaiter à mon mari, qu'il vive errant à travers des villes inconnues, manquant de tout, exilé, craintif, mal considéré, sans place fixe.
Étrangère, apatride, elle cumule.
Médée, c'est vraiment la figure de l'altérité. Donc, c'est effectivement, c'est non seulement une femme, mais c'est aussi une barbare. C'est une déesse, puisqu'elle descend d'Hélios, le soleil. C'est aussi une sorcière, elle est puissante, elle est érudite. Bref, c'est tout le contraire de ce qui fait la norme grecque. Et son altérité fait que l'étrangère est aussi étrange et dangereuse. Elle incarne la confrontation avec une culture différente de la culture dominante. Et donc c'est une culture qui est nécessairement inférieure et dont il faut se méfier. Donc c'est quelque chose qui est très clairement exprimé par le dramaturge Etelvino Vasquez, qui fait dire au roi de Corinthe, à Médée, « Jason est innocent, Jason est l'un de nous, il est européen. Seul toi es une étrangère, cherche un homme de ta race, une barbare comme toi, et quitte l'Europe. » Avant d'être coupable de ses crimes, Médée était déjà coupable d'être étrangère. Et c'est parce qu'elle est rejetée par la société et rejetée par Jason qu'elle passe à l'acte. Et quel crime commet-elle ? Un double infanticide. Donc c'est vraiment le crime hors norme, le crime contre nature par excellence pour les Grecs, pour qui le rôle des femmes se limite à donner des enfants aux hommes.
Pourtant, les premières variantes du mythe n'ont pas toutes été aussi négatives pour Médée.
Effectivement, la plus ancienne mention d'un séjour de Médée à Corinthe nous a été rapportée par un contemporain d'Homère. Et donc, dans cette version, les Corinthiens demandent à Médée de devenir reine, mais les enfants de Jason et Médée trouvent la mort par accident au cours d'un sortilège lancé par Médée pour leur faire partager l'immortalité qu'elle tient de son ascendance divine. Dans d'autres versions, c'est le peuple de Corinthe qui refuse d'être gouverné par une femme étrangère et qui massacre les enfants de la reine. Mais on voit que ce n'est pas ces versions qui ont été conservées et qui sont venues jusqu'à nous. Le mythe s'est fixé sur l'étrangère qui tue le roi et la princesse de sa ville d'accueil, mais surtout sur la femme qui tue ses enfants par dépit amoureux. Le mythe de Médée a même donné naissance au syndrome de Médée en psychanalyse. Et donc c'est pour parler pour parler de l'utilisation des enfants comme des instruments de vengeance par les parents dans les ruptures amoureuses. Mais pourquoi les auteurs se focalisent-ils sur cet infanticide ? Euripide, Corneille ou encore Anouilh auraient pu relayer d'autres versions moins sombres qui existent, ou encore revenir sur d'autres épisodes comme l'aide que Médée a apportée à Jason pour la Toison d'Or. Mais non, en fait, il réduit ce mythe à la vengeance monstrueuse d'une femme trahie, comme si ce qui les fascinait, c'était de voir jusqu'où une femme peut aller pour se venger d'un homme. Mais moi, ce qui me fascine dans ce mythe, c'est au contraire la détermination de Médée. Femme étrangère, femme de savoir, femme puissante, il n'y a pas de place pour elle dans la société. Et plutôt que d'accepter son destin, plutôt que de se taire, plutôt que de se soumettre, elle décide de repousser les limites de ce qui est accepté pour les femmes et de rompre l'ordre établi dans la cité. Et aujourd'hui, la Méditerranée, la mer que Médée a traversée en son temps avec Jason, est devenue le premier cercueil au monde pour les migrants. Ce mythe nous rappelle les périls qu'il y a à refuser d'accepter l'altérité au sein de la cité.
Merci très beaucoup, beau. Chloé.
Merci beaucoup.
Merci.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Camila Rios, directrice et fondatrice d'UNIR, association d'accompagnement des personnes réfugiées et demandeuses d'asile, et Obé Pindahan, fondatrice de l'association Paris d'Exil. Justement, on continue à parler de la loi Asile et Immigration qui a été votée en décembre dernier, promulguée il y a un mois. En tant qu'association, Obépine, Camila, est-ce que vous craignez dans ce climat que votre travail soit rendu plus difficile? Et d'ailleurs, j'imagine que peut-être il l'est déjà. Camila.
Oui, le travail, je pense qu'il a toujours été difficile. Moi, ça fait depuis 2016 que je travaille dans le secteur d'accueil des personnes exilées à Paris. Donc, comme dire, c'est déjà à la base, c'est pas que c'est facile. Maintenant, ça devient compliqué.
Ça a toujours été, il y a juste une évolution.
Ouais, c'est ça. C'est simplement, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport... Je pense les cas de figure, parce qu'il y en a eu beaucoup de cas, de, par exemple, cette histoire des centres d'hébergement, où je me suis dit, bon, maintenant, ça va les affecter d'une façon ou l'autre. Les cours de français aussi, l'accès à la naturalisation, parce que des personnes qui en accompagnent, bon, ils font tout ce qui s'appelle les parcours d'intégration jusqu'à la fin, que c'est la naturalisation. Donc, comment ils vont se retrouver avec cette exigence des cours de français, et comment l'association peut répondre aussi à ces besoins-là, qu'on est déjà en déficit, on peut dire. Donc, il y a plein de questions de la loi, aussi la question de la collégialité. Par exemple, qu'on n'a pas parlé de ça, mais le fait que normalement, il y avait 3 juges pour décider sur un dossier de demande d'asile. Est-ce que le fait d'avoir un seul juge, quel est l'impact qu'il va avoir pour les personnes qui en accompagnent et qui sont en demande d'asile? Donc, il y a plein de petites choses qui me viennent à la tête. Mais en vrai, quand on est dans les terrains et on travaille... Même si je prends des reculs pour analyser un peu comment ça va affecter ou empirer la situation, je me suis dit, bon, il faut continuer. Et parfois, on est tellement dedans que, c'est pas comme le dire, mais c'est difficile de dire ça va être pire. Mais bon, on sait que ça va être pire.
Bépine Dahan, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Si on a le temps.
Sur votre travail, vous, personnellement. Oui, on a le temps.
Nous, à l'association, on a bien vu la dégradation des conditions matérielles de vie de toutes les familles qu'on accompagne et qui nous sollicitent, hein, puisqu'on a des nouvelles familles assez souvent, notamment sur le plan de l'hébergement. Donc là, entre la restriction budgétaire sur l'hébergement d'urgence et l'approche des Jeux Olympiques qui fait que plus d'une centaine d'hôtels 115 ont fermé dans Paris, à vue d'œil, on a vu l'augmentation du nombre de familles sur les trottoirs. Voilà, donc dans tous les quartiers de Paris, notamment de familles dont les enfants étaient scolarisés dans les écoles parisiennes, ce qui a suscité un mouvement de la part de parents d'élèves qui ne sont pas toujours engagés sur cette question-là, mais par le biais des petits camarades de leurs enfants qui étaient à la rue, ils se sont engagés. Voilà, donc il y a un collectif qui s'appelle Jamais sans toi qui s'est créé à l'échelle de l'Île-de-France. Donc nous, oui, sur la question de l'hébergement, on voit directement les effets. Euh, et, euh,
Et bien sûr que, au fur et à mesure que les droits se rétrécissent et que les délais de recours se rétrécissent, Camilla citait tout à l'heure 7 jours pour faire un recours contre un arrêté de transfert de Dublin. N'importe quelle décision administrative en France, c'est 2 mois pour faire un recours. Les recours Dublin, c'est passé de 1 mois à 15 jours à 7 jours. Donc, quand vous comprenez rien à ce qui vous arrive et à ce que c'est qu'un recours, en fait, c'est juste de dire il n'y a plus de recours. Oui, ça va être plus compliqué d'accompagner les personnes, ça va être plus compliqué de leur proposer des solutions, de continuer à maintenir une forme d'espoir. Et je pense qu'une des voies, c'est le développement de réseaux de solidarité concrètes. Donc connaître des médecins, des personnes. Alors, l'hébergement solidaire, on y est passé, c'est très très difficile. Mais je pense que c'est vraiment des actions concrètes de solidarité autour de chez soi, avec des réseaux locaux de personnes solidaires. C'est ça qui va peut-être nous aider à résister à ça.
Je rebondis sur le fait que vous disiez qu'il y avait des parents d'élèves qui commençaient à se mobiliser et d'autres personnes. Donc il y a eu une large mobilisation des associations et d'une partie de l'opinion au moment du vote de la loi en décembre. Et c'est un élan qui s'est poursuivi lors des manifestations du mois de janvier. Est-ce que vous avez l'impression que la situation des sans-papiers, des exilés, est une cause qui mobilise et qui peut mobiliser de manière solide sur le long terme ?
J'aimerais dire que oui, mais c'est difficile de dire oui. Dans le sens que je suis consciente que dans la boule où j'habite, c'est-à-dire boule Paris, mais aussi les lieux, les tiers-lieux, on se trouve notre bureau qui s'appelle les Samar. Beaucoup de personnes s'engagent, on a beaucoup de bénévoles, on a des gens qui nous contactent, etc. Mais je suis aussi consciente que ce n'est pas la majorité. Et après, il y a aussi les gens qui sont silencieuses, dans le sens qu'ils ne s'engagent pas, mais ils ne sont pas non plus contre les personnes étrangères. Et je compte beaucoup sur ces personnes qui se mobilisent et qui décident de s'engager. Je crois beaucoup dans la solidarité, elle est très forte. Les associations, en grande partie, existent grâce à ça. Mais il ne faut pas non plus... parfois, je me dis, il faut que je sois consciente que cette chose qu'on a créée dans les Samar, dans ces tiers-lieux, dans les différents tiers-lieux, ça reste encore des cas isolés. Et ça ne veut pas dire que je ne travaille pas pour cette idée d'une société plus inclusive où les sans-papiers, et les droits des sans-papiers, les droits des personnes exilées soient quelque chose qui parle à tout le monde, qui résonne. Et je pense qu'il faut continuer à croire ça, mais étant aussi réaliste.
Oui, parce que le fait est que le vote Rassemblement National ne fait que monter. Il y a dans le climat en France aujourd'hui, en Europe, ailleurs, quand même une peur de l'étranger. Comment on fait pour faire votre travail, pour démystifier, pour sensibiliser et pour garder de l'espoir ?
Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même souligner les paradoxes de la France. C'est-à-dire que c'est un pays où les gens sont quand même très solidaires. On le voit parce qu'il y a des collectifs qui se sont montés un peu partout où les étrangers sont passés. Même des petites villes et villages qui ont carrément changé d'avis au contact des personnes exilées. Ensuite, quand il y a eu des mobilisations contre la loi asile-immigration, il y a quand même eu des manifestations dans énormément de villes, y compris de petite taille. Donc je pense qu'il faut quand même souligner qu'il n'y a pas que du négatif. Maintenant, quand il s'est passé ce qui s'est passé à la frontière biélorusse-polonaise, qui est mis en lumière actuellement par le film de Agnieszka Holland, Green Border, ce qui était vraiment un acte d'une barbarie inouïe de la part de l'Europe, c'est-à-dire de laisser crever dans la forêt des familles entières sous prétexte qu'on n'en voulait pas, et de lancer les chiens dessus par la police polonaise. Je pense que très peu de gens ont réagi à l'époque, que très peu de gens réagissent aujourd'hui quand une embarcation se noie entre la France et l'Angleterre parce que les secours français attendent que les gens soient en eau anglaise pour leur dire « c'est plus à nous de nous occuper de vous ». Je pense qu'il y a quand même assez peu de réactions par rapport à ces actes qui sont des actes barbares, on ne peut pas les qualifier autrement. Et ça inquiète beaucoup parce que ça veut dire que c'est une dérive dont on est témoin et les principaux responsables, ce ne sont pas ceux qui font ces dérives, ce sont ceux qui ne disent rien. Et ce sont une trop grande majorité de gens encore aujourd'hui.
Très bien, sur ces, sur ces mots...
Éloquent.
Éloquent, oui.
C'est une intervention très éloquente qu'on va laisser place à notre dernière chronique, Émilie, qui poursuit donc son histoire de l'hystérie. Parce que toi, tu es une spécialiste de l'histoire de l'hystérie.
Où est-ce qu'on en était, Émilie ?
Où est-ce qu'on en était, ouais.
Alors, dans les précédentes chroniques, nous avions vu qu'au cours de son histoire, les causes de l'hystérie ont tantôt été attribuées à un manque d'activité sexuelle, ça c'était pendant l'Antiquité, je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais. Tantôt à son excès, et ça c'était au Moyen-Âge. Et ces deux héritages vont donc cohabiter, voire se mélanger, pour peu à peu s'approcher de celles que l'on connaît aujourd'hui.
Et alors, comment ça se passe, cette cohabitation ?
Alors déjà, la traque aux sorcières, donc aux hystériques, puisqu'elles étaient considérées comme telles, et qu'on avait vu au Moyen-Âge, persiste. Le célèbre ouvrage Malleus Maleficarum, qui théorise cette traque, paraît seulement à la fin du XVe siècle. Et si la traque commence progressivement à disparaître, l'imaginaire collectif est ainsi toujours empreint de l'hystérique maléfique. Mais en fait, à cette époque-là, on se situe déjà au croisement entre Moyen-Âge et Renaissance, dont on situe les débuts aux alentours du XIVe et qu'on borne généralement au XVIe siècle. Donc avec cette Renaissance, les textes antiques vont refaire surface, et donc également ceux d'Hippocrate, le père fondateur de la médecine, et par ailleurs du terme hystérique. Et c'est donc là que l'héritage antique, autrement dit classique, redevient important. Ainsi, en parallèle des hystériques maléfiques, l'approche médicale refait surface à partir du XVIe siècle, jusqu'à se consolider au XVIIe-XVIIIe siècle, principalement autour de la figure de Thomas Sydenham, et ce dernier va pour la première fois introduire l'éventualité d'une origine psychique au trouble, en plus de la théorie somatique, donc ce terme, c'est-à-dire, ça veut dire le lien avec le corps, donc un lien physique. Et lui, il va demander à ses patientes quel était leur état d'âme avant le début d'une crise. Donc c'est pour ça que ça devient psychique aussi, l'hystérie à ce moment-là. Et lui aussi va par ailleurs plutôt parler de vapeur hystérique. Les vapeurs, elles étaient très à la mode dans le jargon médical de l'époque. Vous pouvez juste penser à des pièces de Molière et vous situer,
oui,
je pense.
Voit.
Voilà, et donc avec lui aussi, il a fait beaucoup de choses. L'hystérie masculine proposée par Galien au IIIe siècle, donc aussi avant le Moyen-Âge, refait surface. Bien que la femme reste toujours la majeure concernée, évidemment, vous l'aurez compris. Au XVIIIe siècle, la piste de l'origine psychique va être de plus en plus explorée, il y aura plein de recherches, plein de chercheurs, et au XIXe siècle, on va de nouveau confiner l'affection de l'hystérie aux femmes, ce qui est bien utile pour les exclure de la société.
Donc l'histoire de l'hystérie, c'est surtout des croisements et des allers-retours de conceptions différentes, c'est ça ?
Exactement, ça se résume à ça. Et s'ajoute à toutes ces conceptions qu'on a déjà vues, donc également au XIXe siècle, une approche bien plus moderne. À l'aide d'outils mathématiques et statistiques, donc par le biais d'une observation et écoute méticuleuse, le médecin Pierre Briquet, donc un Français, va déclassifier l'hystérie de sa liste des maladies et la comprendra plutôt comme un phénomène sociologique, ce qui s'apparente plutôt à l'approche qu'on a aujourd'hui. Car en écoutant ses patientes, il avait réalisé qu'elles sont nombreuses à simplement subir le patriarcat de manière plus ou moins violente. Et ces violences, face à celles-ci, elles n'ont plus d'autre réponse que leur corps. Et ainsi, il pose la question sociétale de la condition des femmes, il est le premier à le faire. Et il est par conséquent pas étonnant qu'il soit inconnu au bataillon, parce que face à lui, il y avait le célèbre Charcot, Jean-Martin Charcot, qui lui a intégré l'hystérie dans la grande famille des maladies neurologiques, ce qui lui permettra d'endiguer toute forme de remise en question sociale et de couper court à l'éventualité d'une origine patriarcale de la maladie. Et oui, parce que si elles sont toutes organiquement malade, donc c'est quelque chose de physique, ces pauvres femmes, bah on ne peut rien pour elles, ce n'est pas notre faute, mais c'est celle de Dame Nature.
Et Charcot résume un peu tous ces héritages évoqués.
Exactement, mais ça c'est une très longue histoire, d'autant plus que l'encore plus célèbre Sigmund Freud, un Autrichien, y est imbriqué et qu'elle mènera à ce que l'hystérie ne soit plus reconnue comme maladie, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça mérite donc une prochaine chronique.
Et on t'écoutera le 12 mars lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup Émilie, c'est la fin de cette émission. Merci mille fois aux Bépines d'Aran, Camilla Rios
beaucoup.
De nous avoir rejoints.
Merci.
On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite beaucoup de courage dans votre action auprès des personnes exilées. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Émilie et Chloé pour vos chroniques. Merci Pauline et merci à vous, auditeurices. On vous retrouve donc le 12 mars.